Maurice de Guérin, La Bacchante, poème en prose. Voilà la montagne dépouillée de cœurs qui parcourait ses sommets. Les prêtresses, les flambeaux, les clameurs divines sont retombées dans les veillées. La fête se dissipe, les mystères sont entrés dans le sein des dieux. Je suis la plus jeune des bacchantes qui se sont élevées sur le mont Citeron. Les chœurs ne m'avaient pas encore transporté sur les cimes, car les rites sacrés écartaient ma jeunesse et m'ordonnaient de combler la mesure des temps qu'il faut offrir pour entrer dans l'action des solennités. Enfin les heures, ces secrètes nourrices, mais qui emploient tant de durée à nous rendre propres pour les dieux, m'ont placé parmi les bacchantes et je sors aujourd'hui des premiers mystères qui m'avaient enveloppé. Tandis que je recueillais les années réclamées pour les rites, j'étais semblable aux jeunes pêcheurs qui vivent sur le bord des mers. À la cime d'un rocher, ils paraissent quelque temps, les bras tendus vers les eaux et le corps incliné, comme un dieu prêt à se replonger. Mais leur âme balance dans leur sein mortel et retient leur penchant. Enfin, ils se précipitent et quelques-uns sont racontés qui revinrent couronnés sur les flots. Ainsi, je suis demeuré longtemps suspendu sur les mystères. Ainsi, je m'y suis abandonné et ma tête a reparu couronnée et ruisselante. Bacchus, jeunesse éternelle, Dieu profond et partout répandu, j'ai de bonheur reconnu tes marques dans mon sein et rassemblé tous mes soins pour les dévouer à ta divinité. Je me portais un jour vers le lever du soleil, dans le temps où les rayons de ce Dieu comblent la maturité des fruits et ajoutent la dernière vertu aux ouvrages de la terre. Je gagnais les collines pour m'offrir à tes traits et devant déplier mes cheveux à la première issue de ta lumière au-dessus de l'horizon. Car on enseigne que la chevelure inondée par les flammes matinales en devient plus féconde et reçoit une beauté qui l'égale à la chevelure de Diane. Mes yeux, en sortant, avaient surpris les extrémités des ombres qui redescendaient sous le pôle. Quelques signes célestes, lents à accomplir leur déclin vers les flots, marquaient encore le ciel presque abandonné, et le silence laissé par la nuit occupait les campagnes. Mais, ainsi que dans les fraîches vallées de la Thessalie, les fleuves ont coutume d'élever une haleine semblable aux nuages et qui se repose sur eux-mêmes. La vertu de ton souffle, ô Bacchus, s'était exhalée du sein de la terre, durant les ombres, et réglait autour du soleil sur toute l'étendue des plaines. Les constellations qui se lèvent pâles prennent moins d'éclat en gagnant dans la profondeur de la nuit que ma vie ne croissait dans mon sein, soit en puissance, soit en splendeur, à mesure que je pénétrais dans les champs. Quand j'arrêtais mes pas au plus haut des collines, je chancelais comme la statue des dieux entre les bras des prêtres qui la soulèvent jusqu'à la base sacrée. Mon sein, ayant recueilli les esprits du dieu étendu sur la plaine, en avait conçu un trouble qui pressait mes pas et agitait mes pensées comme des flots rendus insensés par les vents. Sans doute, ce fut à la haute faveur de cet égarement que tu te précipitas dans mon sein, ô Bacchus, car les dieux surprennent ainsi l'esprit des mortels, comme le soleil qui, jaloux de pénétrer des rameaux pressés et pleins d'ombre, les fait entr'ouvrir par l'aquilon. Puis Aélio survint. Cette Bacchante, fille de Typhon, le plus emporté de tous les vents, et d'une mer errante dans les montagnes de la Thrace, avait été élevée par des nymphes de ces contrées dans le sein des cavernes et à l'écart de tous les hommes. Car les dieux confient aux fleuves qui tournent leur cours vers les plus grands déserts, ou aux nymphes qui habitent les quartiers des forêts les moins accessibles, la nourriture des enfants issus de leur mélange avec les filles des éléments et des mortels. Allio descendait de la City où elle s'était élevée jusqu'au sommet des monts Riphée et se répandait dans la Grèce, agitant de toutes parts les mystères et portant ses clameurs sur toutes les montagnes. Elle avait atteint l'âge où les dieux, comme les bergers qui détournent l'eau des prairies, ferment les courants qui abreuvent la jeunesse des mortels. Quoiqu'elle possédât encore la fierté d'une vie toute pleine, les bords, il fallait le reconnaître, commençaient à se dessécher, et d'ailleurs l'usage des mystères avait troublé l'ordre de sa beauté qui présentait de grandes marques de pâleur. Sa chevelure, aussi nombreuse que celle de la nuit, demeurait étendue sur ses épaules, attestant la force et la richesse des dons qu'elle avait reçus des dieux. Mais, soit qu'elle l'eût trop de fois déployée dans le tourbillon des vents hyperboréens, soit qu'elle souffrit dans sa tête le travail de quelque déclarée secrète, cette chevelure flétrie devançait l'injure des ans à peine commencée. Ses regards éclairaient dès l'abord qu'ils avaient reçu l'empire des plus vastes campagnes et de la profondeur du ciel. Il régnait toujours et se mouvait sans se hâter, s'étendait de préférence vers ces rivages de l'espace où sont rangées les ombres divines qui reçoivent dans leur sein tout ce qui disparaît à l'horizon. Cependant, par intervalle, ce grand regard d'un si long cours de verre revenait irrésolu et roulait dans le trouble comme celui de l'aigle au moment où ses yeux ressentent les premiers traits de la nuit. Elle montrait aussi des inconstances dans la manière de porter ses pas. Tantôt elle allait exaltant par degrés sa course ferme et légère qu'elle prenait au fond des lèvres, fleuves ou des forêts, et tantôt elle conduisait sa démarche comme l'Atone cherchant dans sa longue aventure un point d'asile pour enfanter les dieux qu'elle avait conçus. Quelquefois, pour l'hésitation de ses pas qui cherchaient à s'assurer et à l'air de sa tête contraint et chargé, on lui dit qu'elle marchait au fond d'un océan. Quand son sein, par la persuasion de la nuit, se rangeait au calme universel, sa voix sortait dans les ombres, paisible et longtemps soutenue, comme le chant des Hespérides à l'extrémité des mers. Aïlio me renferma dans son amitié et m'instruisit avec tous les soins que les dieux emploient autour des mortels désignés pour leur faveur et qu'ils veulent élever eux-mêmes. Comme les jeunes Arcadiens qui descendent avec le dieu Pan aux plus secrètes forêts pour apprendre de lui à poser leurs doigts sur les flûtes sauvages et aussi à recueillir dans leur esprit le gémissement des roseaux, je marchais avec la grande Bacchante qui, chaque jour, tirait ses pas vers quelques points écartés. C'était dans ces lieux déserts que son discours se déclarait et que j'écoutais ses paroles prendre leur cours comme si j'eusse assisté à la source cachée d'un fleuve. « Les nymphes qui règnent dans les forêts, disait-elle, se plaisent à exciter sur le rivage des bois des parfums ou des chants si doux que le passant rompt son chemin et s'enduit pour les suivre au plus profond de ses retraites. Une influence subtile pénètre l'esprit de l'étranger. L'égarement qui s'élève en lui altère la fermeté de ses pas, et tandis qu'il s'avance, semblable aux demi-dieux champêtres qui portent toujours quelque ivresse dans leurs veines, les nymphes applaudissent de la puissance de leur séjour sur l'esprit des mortels. Mais Bacchus fait reconnaître l'enivrement de son haleine à tout ce qui respire, et même à la famille inébranlable des dieux. Son souffle toujours renouvelé court par toute la terre, nourrit aux extrémités l'ivresse éternelle de l'océan, et pousse dans l'air divin. Il s'agite les arbres astres qui se décrivent dans cesse autour du pôle ténébreux. Lorsque Saturne, dans le sein de la nuit, mutile à Uranus endormi, la terre et les mers reçurent avec le sang répandu une nouvelle fécondité, dont les premiers fruits qui s'élevèrent furent les nymphes sur la terre et Aphrodite sur les mers. Bacchus, sans cesse arrêté, comme une tiède vapeur dans le sein humide de Cybèle, soutient la chaleur du sang vieilli qui engendre encore des cœurs entiers de nymphes dans l'épaisseur des forêts et dans l'écume immortelle des eaux. Les fleuves ont leur séjour dans les palais profonds de la terre, demeure étendue et retentissante, où ces dieux penchés président à la naissance de sources et au départ des flots. Il règne, l'oreille toujours nourrie de l'abondance des bouillonnements et l'œil attaché à la destinée de leurs ondes. Mais ni la profondeur, ni l'état impénétrable de leur voûte ne peuvent soustraire ces divinités à Bacchus, car nul accès ne lui fut interdit par les destins. Les fleuves s'agitent sur leurs couches et le limon antique s'émeut dans le sein de leurs urnes troublées. Durant le règne d'un été, j'avais attaché mon séjour au sommet des monts Pangée. Des atteintes secrètes que je reconnais chaque année, les joies de la terre et de la beauté des campagnes approchant, m'engagent à prendre les rampes des montagnes. Les mortels agréables aux dieux, ou dont l'excès des maux les a touchés, ont été conduits et rangés parmi les signes célestes. Maïa, Cassiopée, le grand Chiron, Cirosure et les tristes Hyades sont entrés dans la marche silencieuse des constellations. Guidés par les destins, ils gravissent dans le ciel et déclinent sans écart ni suspense, et sans doute cette poursuite d'une marche qui s'élève et retombe et reprend sur elle-même institue un état de bonheur s'étendant à des limites incertaines, empruntant de la monotonie des chemins et mêlée de quelques pavots. Je voulais qu'une marche lente appliquée aux escarpements des monts engendrât en moi une disposition pareil à celle que les astres tirent de leur cours, mon chemin me portant vers le comble des montagnes, ainsi qu'il s'élève dans les degrés de la nuit. Mais le fruit ne peut écarter la maturité qui l'approche. Chaque jour la terre le pénètre des dons plus pressants dont la chaleur qui le consume se marque au dehors par des couleurs toujours plus avancées. Atteinte comme lui et gagnée dans mon sein, j'étais impuissante à rejeter ou à ralentir la vie qui m'était suggérée. Les pas tardifs, la recherche sous les forêts des asiles consacrés à ces divinités muettes et si puissantes par le calme qui assoupissent les douleurs les plus aiguës, les longues pauses sous les souffles qui viennent du couchant, la chute du soleil étant accomplie, ni l'ombre vide de la nuit, ni les songes ne pouvaient suspendre un moment les secrètes poursuites dont mon œil souffrait l'effort. Je m'élevais jusqu'à ce degré des montagnes qui reçoit les pas des immortels, car parmi eux, les uns se plaisent à parcourir la suite des monts, tenant leur marche inébranlable sur les ondulations des cimes, et d'autres sur les rochers qui règnent au loin, consumant les heures à plonger dans la dépression des vallées, y recueillant les approches de la nuit ou considérant comme les ombres et les songes s'engageant dans l'esprit des mortels. Parvenu à ces hauteurs, j'obtins les dons de la nuit, le calme et le sommeil qui réduisent les agitations même soulevées par les dieux. Mais ce repos fut semblable à celui des oiseaux amis des vents et sans cesse portés dans leur cours. quand ils obéissent aux ombres et abattent leur vol vers les forêts, leurs pieds s'arrêtent aux branches où perçant dans le ciel sont facilement émus par les souffles qui parcourent la nuit. Car jusque dans le sommeil, ils se réjouissent des atteintes des vents et veulent que leur plumage frissonne et s'entr'ouvre aux moindres haleines survenues aux raréfaites des bois. Ainsi, dans le sein même du repos, mon esprit demeurait exposé au souffle de Bacchus. Ce souffle observe en se répandant une mesure éternelle et se communique à tout ce qui jouit de la lumière. Mais un petit nombre de mortels, par un privilège des destinées, savent s'informer de son cours. Il règne jusqu'à l'extrême sommet de l'Olympe et passe à travers le sein même des dieux couverts de l'égide ou revêtus de tuniques impénétrables. Il retentit dans les reins, toujours agités autour de Cybèle, et conduit la langue des muses qui entraînent dans leur chant l'histoire entière de la génération des dieux dans les entrailles humides de la terre, au sein de la nuit sans borne ou dans l'océan qui a nourri tant d'immortels. Au sortir du sommeil, je livrais mes pas à la conduite des heures. Elle réglait ma course sur les degrés du jour et je tournais sur la montagne, entraîné par le soleil, comme l'ombre qui accomplit sa révolution au pied des chênes. Les pas de quelques mortels furent arrêtés par les dieux au voisinage des eaux, dans la profondeur des forêts ou sur la descente des collines. Des racines soudaines ont conduit leurs pieds dans le sol, et toute la vie qu'ils contenaient s'est étendue en rameaux et déployée en feuillage. Les uns, attachés au bord des eaux dormantes, gardent un calme sacré et accueillent à l'approche du jour l'essaim des songes qui prennent asile dans leurs branchages obscurs. D'autres, ajoutés aux forêts de Jupiter ou dressés sur les sommets stériles, portent une cime vieille et sauvage qui prend tous les vents et arrête toujours quelqu'un de ces oiseaux écartés qu'observent les mortels. Leur destin est irrévocable car la terre divine les possède. Ils sont assujettis à la nature éternelle de son sein. Mais tels qu'ils ont été rendus et dans l'immobilité de leur état, ils retiennent encore quelques secrets mouvements de leur première condition. Que les saisons déclinent ou se relèvent, ils demeurent attentifs au soleil. De tout ce qui se meut dans l'univers, ils ne distinguent plus que lui. Et c'est à lui seul qu'ils adressent ce qu'ils peuvent former encore de vœux confus. Quelques-uns même, telle est la force de leur amour, conduisent le mouvement de leur croissance sur la marche de Dieu et tournent vers son passage l'abondance de leurs rameaux. Dans le chemin où j'entrais à la suite du jour, j'ai vu mes pas tomber dans le ralentissement, mes forces encore pleines et s'éteindre enfin dans une entière immobilité. Alors je devenais semblable à ces mortels réduits sous l'écorce et arrêtés dans le sein puissant de la terre. Retenu dans le repos, je recevais la vie des dieux qui passaient, sans marquer de mouvement et les bras détournés vers le soleil. C'était vers l'heure du jour qui montre le plus puissant éclat. Tout s'arrêtait sur la montagne. Le sein profond des forêts n'en respirait plus. Les flammes fécondes embrassaient Cybèle. Et Bacchus enivrait jusqu'à la racine des îles dans les entrailles de l'océan. La marche du soleil dans le déclin déterminait mes pas vers les points de la montagne les plus avancés vers l'occident. Le dieu disparu et la lumière qu'il laissait ayant ressenti le premier mélange des ombres, le sein des vallées et toute l'étendue des campagnes reprenaient, mais lentement, la liberté de leur haleine. Les oiseaux s'élevaient au-dessus des bois, cherchant dans le ciel si le cours des vents s'était rétabli. Mais leurs ailes, encore enivrées, fournissaient avec peine un vol chancelant et plein d'erreurs. un murmure né au faîte des forêts témoignait du réveil des souffles, mais les cimes ne rendaient qu'un tremblement léger qui n'égalait pas l'agitation éprouvée par les rameaux de cyprès dans les mains de Pan quand le dieu se retire des cœurs qui l'animent durant les nuits favorables. La mesure impétueuse s'attache à ses pas et le fait rentrer chancelant dans les bois endormis. Sortis de l'épaisseur de leur retraite, les animaux sauvages venaient prendre sur les hauteurs une respiration plus vive. Leurs yeux paraissaient dans une flamme nouvelle. Leur voix terrible était tombée dans le murmure et leur marche hardie dans la longueur des pas. Cependant, les ombres comblaient la profondeur des vallées. Elles montaient vers moi, distribuant à tout ce qui respire le soleil et les songes. Elles me joignaient enfin et m'enveloppaient, mais sans me pénétrer. Je demeurais ferme et vive sous la pesanteur de la nuit, tandis que la terre, pleine de sommeil, communiquait le repos à mes membres et les gagnait à l'immobilité générale. Mon front veillait sans être frappé de langueur. Il était animé de tous les dons répandus par les dieux durant le jour. Leur charme l'entourait et la vie nouvelle que j'avais recueillie lui envoyait ses esprits enflammés. Callisto, revêtu d'une forme sauvage par la jalousie de Junon, erra longtemps dans les déserts. Mais Jupiter, qui l'avait aimé, l'ôta des bois pour l'associer aux étoiles et conduisit ses destins dans un repos dont ils ne peuvent plus s'écarter. Elle a reçu sa demeure au fond du ciel ténébreux qui répandit les éléments, les dieux et les mortels dans les entrailles de Cybèle. Le ciel range autour d'elle les plus antiques de ses ombres et le lui fait respirer ce qu'il possède encore des principes de la vie, y joignant les atteintes du feu infatigable dont les émanations animent l'univers. Pénétré d'une ivresse éternelle, Callisto se tient incliné sur le pôle, tandis que l'ordre entier des constellations passe et abaisse son cours vers l'océan. Tel, durant la nuit, je gardais l'immobilité au sommet des monts, la tête enveloppée d'une ivresse qui le pressait comme la couronne de pampres de fruits qui entretient au temple de Bacchus une jeunesse inaltérable. Ainsi m'instruisait Aélio par le récit de ses destinées. Une fois debout pour suivre la voie qu'il appelait dans la science des dieux, mon esprit ne retourna plus vers la foule où il avait sa première demeure. Il s'éloigna avec son guide vers les mystères les moins fréquentés. Chaque jour, la parole de la grande Bacchante se relevait, prenant devant moi dans l'obscurité des chemins. Souvent, les muses quittent le mouvement rapide des cœurs pour commencer une marche à pas lents au sein de la nuit. Revêtues de leurs voiles les plus épais et se conduisant sur l'extrémité des monts, elles ouvrent des chants divins sous les ténèbres. La parole d'Aélio m'entraînait vers les dieux, s'avançait pareil à cette voix des muses portées dans les ombres. Un antre ouvert sur les plaines, les cimes réservées aux derniers traits du jour, le lit des vallées les plus fécondes, tels étaient les lieux où me guidait le choix d'Aélio. La durée de ces entretiens pénétrait souvent jusque dans le sein de la nuit, et alors elle se retirait seule, laissant son discours suspendu dans mon esprit, comme les nymphes qui, ayant arraché leurs vêtements, humides à une branche inclinée, rentrent dans le secret de leur demeure. Cependant s'avançaient les mystères qui allaient enfin m'emporter dans leur cours, mais leurs premiers mouvements dans les Bacchantes devancèrent de bien loin l'heure de leur levée. Chacune de nous, ayant reconnu en soi les signes envoyés par le dieu, commença dès lors à s'écarter, car les mortels atteints par les divinités dérobent aussitôt leurs pas et se conduisent par des attraits nouveaux. Nous entrâmes chacune dans le penchant où nous portait le cours de notre esprit. Semblables aux nymphes, filles du ciel et de la terre, qui dès leur naissance se répartirent à l'ouverture des fontaines, aux divers cantons des forêts et à tous les lieux où Cybèle avait rassemblé des marques de sa fécondité, ces penchants nous dispersèrent à toutes les régions des campagnes. Nous fûmes admises dans la destinée des dieux qui s'attachèrent à régner sur les éléments. Puissants sur les fleuves, les bois, les vallées fertiles, ils se réjouissent à considérer la vie qui s'achemine sous leurs yeux. Mais dans la durée de ce loisir attentif qu'ils mènent, penchés sur les ondes, leur vie immortelle se conforme à leur chute monotone et leur nature s'engage dans les éléments contemplés, comme un homme surpris au bord des fleuves par le sommeil et les songes et dont la robe se répand dans les flots. Chaque bacchante s'arrête ainsi à quelque lieu signalé par la naissance d'une destinée naturelle. Aélio parut à la cime des collines et reposa longtemps sa tête sur le sein de la terre. Elle semblait attendre, comme Mélampe, fils d'Amaltaon, que le serpent marqué d'un pavot vint se nouer autour de ses tempes. Hippothée, assise à l'avenue des fontaines, y fut rendue immobile. Ses cheveux, qu'elle avait répandus, ses bras dans l'abandon et l'attachement de ses regards à la fuite des eaux, marqueraient sa pente vers le destiné et que son esprit se joignait à leur cours. La barque de Plexo se plongea dans les forêts les plus éployées. Quand une océanide est touchée de sommeil, tandis qu'elle parcourt les mers, ses membres s'affaissent et prennent leur couche sur les flots. Elle a résigné la conduite de son voyage à l'inconstance des ondes. Flottante, on dirait de loin un mortel expiré, mais dans la vague qui l'emporte, elle est étendue avec la légèreté de la vie et son sein s'use d'un sommeil inspiré par l'océan. Tel paraissait le repos de Plexor dans le lit des forêts. Arrêté sur le bord des descentes profondes, Télesto s'inclinait devant les bras étendus vers les vallées, pareil à Cérès au sommet de l'Etna, quand la déesse, s'avançant sur l'ouverture du cratère, allume sa torche de pin dans le feu du volcan. Pour moi, qui ignorais encore le dieu, je courais en désordre dans les campagnes, emportant dans ma fuite un serpent qui ne pouvait être reconnu de la main, mais dont je me sentais parcouru tout entière. Semblable à un rayon de soleil, conduit en repli autour d'un mortel par la puissance des dieux, ces nœuds m'enlaçaient d'une chaleur subtile qui irritait mes esprits et chassait mes pas comme un aiguillon. J'allais accusant Bacchus et songeant au flot de la mer où je me croyais contrainte. Mais le dieu eut dans peu de temps épuisé mes pas. Incliné vers la chute, j'implorais la terre qui donne le repos, quand le serpent, redoublant ses nœuds, attacha dans mon sein une longue morsure. La douleur n'entra pas dans mon flanc déchiré. Ce fut le calme et une sorte de langueur, comme si le serpent eût trempé son dard dans la coupe de Cybèle. Il s'éleva dans mon esprit une flamme aussi tranquille que les lueurs nourries durant la nuit sur un autel sauvage érigé aux divinités des montagnes. Attentive et dans le repos, comme une nymphe de Nysa, pressant dans ses bras l'enfance de Bacchus, j'occupais les antres jusqu'à l'heure où, le cri d'Aélio ayant signalé la venue des mystères, je m'élevais sur les traces de cette bacchante qui marchait devant nous comme la nuit, quand, la tête détournée pour appeler les ombres, elle se dirige vers l'Occident.